J'ai traversé le parking de l'usine, tapotant encore une fois au passage le coffre de la Plymouth Fury bicolore blanc sur rouge pour me porter chance. J'allais certainement en avoir le plus grand besoin. J'ai traversé la voie ferrée, entendant encore le tchac-a-tchac, tchac-a-tac d'un train qui semblait un peu plus loin cette fois, parce que ma rencontre avec Carton Jaune, désormais Carton Orange, avait duré un peu plus longtemps. L'air empestait la fumée d'usine comme avant, et le même autobus interurbain est passé en grondant. Comme j'étais un peu en retard, je n'ai pas pu lire sa destination, mais je me souvenais qu'il portait la mention « Lewiston Express ». Je me suis vaguement demandé combien de fois Hal avait vu passer le même bus, avec ses mêmes passagers derrière les fenêtres. J'ai traversé rapidement la rue, agitant la main devant mon visage pour disperser le nuage bleu des gaz d'échappement de l'autobus. Le James Dean Rockabilly était à son poste devant la porte, et je me suis brièvement demandé ce qu'il dirait si je lui volais sa réplique. Mais d'une certaine façon, ça aurait été aussi moche que de terroriser intentionnellement le poivreau du séchoir de l'usine. Si vous volez aux jeunes le langage codé qui est le leur, il ne leur reste pas grand-chose. Celui-ci ne pouvait même pas rentrer chez lui se défouler sur sa Xbox. Je me suis donc contenté de hocher la tête. Il a fait de même. « Hey-ho, daddy-ho !» Je suis entré. La cloche a sonné. Je suis passé devant le présentoir de bande dessinée pour aller directement au distributeur de soda où se tenait Frank Anicetti Senior. « Que puis-je faire pour vous aujourd'hui, mon ami ?» Un instant, je suis resté sec, parce que ce n'était pas ce qu'il avait dit la première fois, puis j'ai compris pourquoi. La dernière fois, j'avais attrapé un journal au passage. Cette fois, je ne l'avais pas fait. Peut-être que chaque voyage en 1958 remettait tous les compteurs à zéro, sauf celui de Carton Jaune. Mais dès qu'on modifiait quelque chose, alors tout devenait possible. L'idée était à la fois libératrice et effrayante. « Je prendrais bien une racinette, » j'ai dit. « Et moi, je prendrais bien un client de passage. Donc nous sommes faits pour nous entendre. » 5 ou 10 cents la bière ? Disons 10. Eh bien, disons que vous avez dit juste. La tasse givrée est sortie du congélateur. L'homme s'est servi du manche de la cuillère en bois pour racler la mousse. Il a rempli la tasse à ras-bord et l'a posée devant moi. Tout comme avant. Ça fait 10 cents, plus 1 penny pour le gouverneur. Je lui ai tendu l'un des dollars d'époque de Hal, et pendant que Frank 1.0 me rendait la monnaie, j'ai regardé par-dessus mon épaule et aperçu l'ex-Carton Jaune debout devant le magasin d'alcool, le front vert, tanguant de droite à gauche. Il m'a rappelé un fakir hindou que j'avais vu dans un vieux film, qui se dandinait en sonnant du cor pour essayer de faire entrer un cobra dans un panier en osier. Et, venant vers nous sur le trottoir, pile à l'heure, voici qu'arrivait Anicetti Junior. Je me suis retourné pour siroter ma racinette et j'ai soupiré. Ah, ça fait du bien par où ça passe.
Ouais. Rien de tel qu'une bière bien fraîche quand il fait bien chaud. N'êtes pas de par ici ?
Non, Wisconsin. J'ai tendu la main. George Amberson. Alors qu'il la serrait, la cloche de la porte a tinté.
Frank Anicetti. Et voici mon fiston, Frank Junior. Franky, dis bonjour à Monsieur Amberson qui nous vient du Wisconsin.
Bonjour, monsieur. Il m'a adressé un sourire assorti d'un hochement de tête, puis s'est tourné vers son père.
Titus a monté le camion sur le pont. Il dit qu'il sera prêt pour 5 heures.
Impec.
J'ai attendu qu'Anicetti 1.0 allume une cigarette et n'ai pas été déçu. Il a inhalé, puis s'est tourné vers moi.
Et vous voyagez pour affaires ou pour votre plaisir ?
Si je n'ai pas répondu tout de suite, ce n'est pas parce que j'étais pris au dépourvu et ne savais pas quoi répondre. Non, ce qui me surprenait,
c'était la façon dont cette scène ne cessait de s'éloigner du script original et d'y revenir. Heureusement, Anicetti ne semblait pas le remarquer.
« Ah, peu importe. Vous avez choisi le bon moment pour venir. La plupart des estivants sont partis et c'est le moment où nous, on se détend. Vous voulez une boule de glace à la vanille dans votre bière ? D'habitude, ça fait 5 cents, mais le mardi, je baisse à 1 nickel.
« Papa, on sait bien qu'un nickel, c'est 5 cents. Ta blague, elle est usée depuis au moins 10 ans, » a dit Frank Junior plaisamment.
« Je vous remercie, mais ça ira, » j'ai dit. « Je suis ici pour affaires, en fait. Une vente immobilière à Sabatus ? Je crois que c'est ça. Vous connaissez ?»«
Seulement depuis que je suis né, »
a répondu Frank. Il a soufflé la fumée par le nez, puis m'a lancé un regard malin.
« C'est beaucoup de route pour une vente immobilière. »
Je lui ai répondu d'un sourire tout aussi malin qui était censé vouloir dire « Si vous saviez ce que je sais. » Il a dû comprendre le message car il m'a gratifié d'un clin d'œil. La cloche de la porte a tinté et les tâteuses de fruits sont entrées. L'horloge murale « Commencez la journée par un sourire, prenez un café joie de vivre » indiquait 12h28. Apparemment, dans ce script, l'endroit où Frank Junior et moi avions discuté de la nouvelle de Shirley Jackson avait été coupé au montage. J'ai terminé ma racinette en 3 gorgées, et au même moment, une crampe m'a tordu les entrailles. Dans les romans, les personnages ont rarement besoin d'aller faire popo, mais dans la vraie vie, le stress mental provoque bien souvent une réaction physique.
« Dites, vous n'auriez pas des toilettes par hasard ?»«
Non. » « Désolé, » m'a dit Frank Senior. « Toujours l'intention d'en installer, mais l'été, on est trop occupé, et l'hiver, on dirait qu'il n'y a jamais assez d'argent pour les rénovations. »«
Vous pouvez aller chez Titus, au coin de la rue, »
a dit Frank Junior. Il remplissait un cylindre métallique de crème glacée pour se faire un milkshake, apparemment. Il n'avait pas fait ça la première fois, et j'ai pensé avec un certain malaise à ce fameux effet papillon. Je croyais voir ce papillon déployer ses ailes juste devant mes yeux. Nous étions en train de changer le monde. Dans de faibles proportions, des proportions infinitésimales, mais nous étions bel et bien en train de le changer.
« Monsieur ?»«
Excusez-moi, » j'ai dit. « Je viens d'avoir une crampe au cerveau. » Il a eu l'air intrigué, puis s'est mis à rire.
« Je l'avais jamais entendue, celle-là. Elle est bonne. »
Et comme elle était bonne, il risquait de la répéter la prochaine fois qu'il aurait une absence. Et une expression qui, sans ça, ne serait pas entrée avant les années 70 ou 80 dans le flot étincelant de l'argot américain, y ferait une arrivée anticipée. On ne pouvait pas vraiment dire « prématurée », puisque dans ce flux de temps, elle arriverait pile au bon moment.
« Titus Chevron est juste au coin, sur votre droite, » m'a indiqué Anicetti Senior. « Mais si c'est un besoin urgent, je vous invite à utiliser notre cabinet à l'étage. »«
Non, ça ira, » j'ai dit.
J'avais déjà consulté l'horloge murale, mais j'ai regardé ostensiblement ma Bulova à bracelet Spidel. Heureusement qu'eux ne pouvaient pas voir le cadran. J'avais oublié de la mettre à l'heure. Et elle indiquait toujours celle de 2011.
« Je dois y aller, j'ai pas mal de courses à faire. Et à moins de m'en sortir très bien, elles vont m'occuper plus d'une journée. Pouvez-vous me recommander un bon motel dans le coin ?»«
Vous voulez dire un relais automobile ?» m'a demandé Anicetti Senior. Il a écrasé sa cigarette dans l'un des cendriers « Winston a le goût du vrai » qui festonnait le comptoir.
« Oui. »
Cette fois, plutôt que malin, mon sourire devait avoir l'air stupide, et j'ai eu une nouvelle crampe intestinale. Si je ne trouvais pas une solution rapide à ce problème, il allait se transformer en authentique situation d'urgence.
« Oui, nous appelons ça des motels dans le Wisconsin. »«
Eh bien, je dirais le Tamarack à environ 10 km sur la 196 en direction de Lewiston, » m'a conseillé Anicetti Senior.
« C'est à côté du ciné-parc. »« Merci pour le tuyau, »
j'ai dit en me levant.
Pas de problème.
Et si vous voulez vous faire déboiser la colline avant vos rendez-vous, essayez donc Baumer, notre barbier. Il a un joli coup de ciseau.
Merci pour cet autre bon tuyau.
Les tuyaux, c'est gratos. Les racinettes sont au prix américain. Profitez bien de votre séjour dans le Maine, monsieur Amberson. Et toi, Franky, tu me bois ce milkshake et tu retournes à l'école.
Naturellement, pas.
Cette fois, ce fut au tour de Junior de me gratifier d'un clin d'œil.
Franck ?
Appela l'une des clientes d'une voix chantante.
Ces oranges sont-elles fraîches ?
Aussi fraîches que votre sourire, Léola, répondit-il.
Et les dames y hirent. J'essaie pas de faire le malin, là. Je vous jure qu'elles y hirent.
Je suis passé devant elles en murmurant « Mesdames ». La cloche a tinté et je suis sorti dans le monde d'avant ma naissance. Mais cette fois, au lieu de traverser la rue en direction de la cour de l'usine où se trouvait le trou du terrier, j'ai pénétré plus profondément dans ce monde. En face, l'ivrogne au long manteau noir gesticulait devant le vendeur du front vert. Le carton qu'il agitait était peut-être orange et non plus jaune, mais autrement, il était revenu au script d'origine. J'ai pris ça pour un bon signe. Titus Chevron se trouvait juste après le supermarché Red and White, où Al avait acheté les mêmes produits pour son resto jour après jour. D'après l'affichette en vitrine, le homard se vendait à 69 cents la livre. En face du supermarché, sur un terrain vacant en 2011, il y avait une grande grange marron, toute porte ouverte sur une quantité de meubles d'occasion. Berceaux et fauteuils à bascule en rotin, et les gros fauteuils rembourrés style « Papa se relaxe après le boulot » semblaient figurer en nombre particulièrement abondant. L'enseigne au-dessus de la porte indiquait « The Jolly White Elephant ». Un panneau en chevalet, disposé pour attirer l'attention des gens passant sur la route de Lewiston, proclamait audacieusement « Si nous ne l'avons pas, c'est que vous n'en avez pas besoin. » Un homme, qui m'a semblé être le propriétaire, fumait la pipe, assis dans l'un des fauteuils à bascule, et il m'a regardé sans me voir. Il était en débardeur sur un pantalon marron trop grand. Il portait le bouc, ce que j'ai trouvé tout aussi audacieux pour cet îlot particulier dans le flux du temps. Ses cheveux, bien lissés vers l'arrière, et aplati à l'aide d'une sorte de brillantine, bouclait sur sa nuque, d'une façon qui m'a rappelé une vieille vidéo que j'avais vue sur l'épopée du rock'n'roll. Jerry Lee Lewis sautant sur son piano en chantant « Great Balls of Fire ». Le propriétaire du Jolly White Elephant passait probablement pour le beatnik du coin. Je l'ai salué en levant deux doigts. Il m'a répondu d'un imperceptible hochement de tête, en continuant à téter sa pipe. À la station Chevron, où l'ordinaire coûtait 19,9 cents le gallon, et le super un penny de plus, un homme en salopette bleue avec coupe militaire réglo travaillait sur un camion, celui des Anicetti, ai-je présumé, monté sur le pont.
Monsieur Titus ?
Il a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule.
Ouais ?
« Mister Anicetti m'a dit que je pourrais utiliser vos toilettes. »«
La clé est dedans, derrière la lourde. »«
La lourde. »«
Je vous remercie. »
La clé était attachée à une petite pagaie de bois marquée « Homme ». Sur la pagaie, de l'autre côté, figurait le mot « Fille ».
« Mon ex-épouse aurait fait un caca nerveux en voyant ça, ai-je pensé, non sans un malin plaisir. »
C'était propre, mais ça sentait le tabac froid dans les chiottes. Un cendrier en forme de vase qui était posé à côté de la cuvette. D'après le nombre de mégots dont il était jonché, j'ai déduit qu'une bonne partie des visiteurs de ce petit lieu d'aisance propret aimait crapoter en popotant. Quand je suis ressorti, j'ai remarqué une bonne vingtaine de voitures d'occasion garées sur un petit terrain à côté du garage. Une rangée de fanions colorés flottait au-dessus d'elle dans une brise légère. Des voitures qui se seraient vendues des milliers de dollars en 2011. Des classiques de collection, pas moins,
était affiché à 75 et 100 dollars. Une Cadillac, qui paraissait pratiquement neuve, était annoncée à 800. Dans un petit kiosque de vente, une minette à queue de cheval mastiquait du chewing-gum en lisant Photoplay. Un écriteau annonçait « Toutes nos voitures sont en état de marche et garanties par Bill Titus. Nous suivons ce que nous vendons. » J'ai raccroché la clé, remercié Titus, qui a grogné sans se détourner de son camion, et je suis reparti vers Main Street en me disant que ce serait une bonne idée d'aller me faire couper les douilles avant ma visite à la banque. Ça m'a rappelé le bouc du beatnik, et saisi d'une impulsion, j'ai traversé la rue en direction de l'entrepôt de meubles d'occasion.
« Jour !» j'ai dit. « On est déjà l'après-midi, mais peu importe si ça peut vous faire plaisir. »
Il a tété sa pipe, et cette légère brise de fin d'été m'a apporté une bouffée de cherry blend, accompagnée du souvenir de mon grand-père, qui fumait ce même tabac à pipe quand j'étais gamin, et m'en soufflait parfois quelques bouffées dans l'oreille, afin de soulager mes douleurs d'otite, traitement que n'aurait probablement pas approuvé l'ordre des médecins.
« Vous vendez des valises ?»«
Oh, j'en ai quelques-unes dans ma manche. Pas plus de 200, je dirais. Allez tout droit jusqu'au fond et regardez sur votre droite. » »«
Si j'en achète une, je peux vous la laisser une ou deux heures, le temps de faire quelques courses ?»«
Ah, je suis ouvert jusqu'à 5 heures. »
qu'il m'a répondu. Et tournant son visage vers le soleil,
« Après, venez pas me chercher. »
J'ai échangé 2 dollars millésimés de mon copain Hal contre une valise en cuir que j'ai laissée derrière le comptoir du beatnik avant de remonter Main Street avec ma sacoche me battant la jambe. J'ai jeté un œil dans le front vert et vu le vendeur en train de lire le journal assis à côté de la caisse. Il n'y avait plus trace de mon pote en pardessus noir. J'aurais eu de la peine à me perdre dans les rues commerçantes, car il n'y en avait qu'une. À 3 ou 4 vitrines de la Kennebec, je suis tombé sur celle de coiffure Bomber. Une colonne de barbier en bois rouge et blanc tournait dans la vitrine. À côté, il y avait une affiche électorale avec la tête d'Edmund Muskie. Je me le rappelais comme un vieil homme fatigué aux épaules voûtées. Mais cette version de lui semblait presque trop jeune pour voter, encore moins pour être élu. L'affiche disait «
Envoyons Ed Muskie au Sénat, votons démocrate ».
Quelqu'un avait rajouté une bande blanche en bas. Dessus, écrit à la main, on lisait
« Il disait que c'était impossible dans le Maine, mais nous l'avons fait. Prochaine étape, Humphrey, 1960 ».
À l'intérieur, 2 vieux birbes attendaient assis contre le mur, pendant qu'un troisième tout aussi antique se faisait rafraîchir la tonsure. Les 2 poireauteurs fumaient comme des locomotives. De même que le coiffeur, Bomber, supposais-je, un œil mi-clos pour se protéger de sa propre fumée tandis qu'il jouait du ciseau. Tous les 4 m'ont détaillé d'une manière qui m'était familière. Le regard évaluateur, pas totalement soupçonneux, mais presque, que Christie avait un jour appelé la foudre Yankee. C'était sympa de savoir que certaines choses n'avaient pas changé.
« Je ne suis pas d'ici, mais je suis un ami », je leur ai dit. « Toujours voté démocrate toute ma vie. »
J'ai levé la main pour prendre Dieu à témoin. Bomber a grogné son amusement. De la cendre a dégringolé de sa cigarette. Il l'a brossée distraitement de sa blouse, et elle a rejoint le plancher où plusieurs mégots écrasés gisaient parmi les tifs coupés.
« L'Harold, ici, il est républicain. Gaffe qu'il aille pas vous mordre. La pull est ratiche pour ça !»
a renchéri l'un des autres. Et ils ont tous gloussé de rire.
« Et d'où ce que vous venez, monsieur ?»
a demandé Harold le républicain.
« Du Wisconsin. »
J'ai attrapé un numéro du magazine Men's Adventure afin de prévenir toute velléité de conversation. En couverture, un sous-homme asiatique tenant un fouet dans sa main gantée s'approchait d'une belle blonde ligotée à un pieu. L'article correspondant s'intitulait « Aux mains des Japs, esclaves sexuels dans le Pacifique ». L'odeur qui flottait chez le barbier était un mélange suave et exquis de talc pour bébé, de brillantine et de fumée de cigarette. Au moment où Baumer me fit signe que la chaise était libre, j'étais totalement absorbé dans l'histoire des esclaves sexuels, qui n'était pas aussi excitante que le promettait la couverture.
« Alors, comme ça, on voyage un brin, monsieur Wisconsin ?»
m'a-t-il demandé pendant qu'il m'ajustait un plastron de rayonne blanche sur la devanture et me passait une collerette de papier autour du cou.
« Plutôt beaucoup,
ai-je avoué, jouant la carte de la sincérité.
« Eh ben, vous êtes dans le pays de Dieu à cette heure. Les volets courts comment ?»«
Suffisamment court pour ne pas ressembler à... » « Un hippie, ai-je failli dire. » Mais Baumer n'aurait pas su de quoi je parlais. « Un beatnik. »«
Vous êtes laissé déborder un brin, ce qu'on dirait. »
Il a commencé à couper.
« Un brin de plus, et vous ressembliez à cette tapette du Jolly White. »«
Ah, je ne préférerais pas, » j'ai dit.
« Ah, dame, c'est un spectacle, ch'ti là. »
Baumer termina en me poudrant la nuque, me demanda si je voulais du Vitalis, du Brill's Cream ou de la Wildwood Cream Oil et me factura 40 cents pour le tout. Voilà ce que j'appelle une affaire.